Vous écoutez, on lit pour vous.
Danser pour la santé de son cerveau. Un texte de Claire Sibonnet, paru en mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Voici comment la danse améliore la vie des patients atteints de troubles neurocognitifs et moteurs, comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et les lésions cérébrales. Vêtue de noir, assise sur un canapé blanc capitonné dans le salon dénudé, inondé de soleil de son appartement de Toronto, Sarah Robichaud donne un cours sur Zoom à un groupe de 80 élèves à qui elle apprend des mouvements de danse inspirés du ballet moderne. Au son d'une version lente de la célèbre chanson des Proclaimers, « I'm Gonna Be 500 Miles », la danseuse formée au Bolshoï ouvre les bras en exagérant les mouvements et demande aux élèves de reproduire la séquence. « Commencez par un délicat va-et-vient, » dit-elle. Imaginez que vous avez un fil attaché au poignet et que quelqu'un tire sur ce fil d'un côté et de l'autre. Plusieurs élèves de Sarah sont assis, comme elle. Plus de la moitié d'entre eux souffrent de la maladie de Parkinson et ont généralement du mal à bouger. Mais quand ils essaient de reprendre ces mouvements fluides et gracieux, tout semble plus aisé. « C'est profond, » dit Sarah Robichaud, fondatrice du programme à but non lucratif « Dancing with Parkinson's », qui anime elle-même des cours de danse gratuits en ligne. « Je le fais depuis 16 ans et il n'y a pas une semaine où, en regardant mes danseurs, je ne dois pas retenir mes larmes. » Les preuves ne sont plus à faire. La danse stimule la santé du cerveau et permet de mieux gérer les symptômes neurocognitifs et moteurs, notamment ceux associés au Parkinson, à la sclérose en plaques, SP, à l'Alzheimer, à la démence et même aux lésions cérébrales. Sarah est bien placée pour en mesurer les bienfaits. Elle a suivi à New York en 2007 un programme pédagogique innovant auprès du Mark Morris Dance Group. De retour à Toronto, elle lançait « Dancing with Parkinson's » pour s'investir au sein de sa communauté. Quelques années plus tard, son grand-père recevait un diagnostic de Parkinson. Elle a dansé avec lui dans sa maison de soins de longue durée jusqu'à sa mort en 2013. Un élève de Sarah, un quinquagénaire convaincu avant de commencer le programme que la danse ne lui convenait pas, a admis récemment avoir retrouvé une certaine dextérité et une plus grande liberté de mouvement. « Je ne peux pas nier que c'est en train de changer ma vie », lui a-t-il dit. Ce n'est pas le fruit de son imagination ni de celle des autres élèves. De nombreuses études montrent que les symptômes de Parkinson diminuent avec la pratique d'une activité qui cible certaines compétences comme l'équilibre, la coordination, la souplesse, la créativité et le travail de la mémoire. Pour plusieurs, la danse est l'un des moyens les plus agréables et les plus efficaces pour atteindre ce résultat. Une étude menée par l'Université York en 2021 a révélé qu'une séance de danse hebdomadaire améliorait la fonction motrice et le quotidien des sujets atteints de Parkinson léger à modéré. La danse comme remède. La danse, qui exige d'accomplir plusieurs tâches mentales complexes en même temps, mobilise plusieurs aires du cerveau, explique Elena Blumen, cognitiviste au Albert Einstein College of Medicine à New York. Selon elle, cela pourrait renforcer les connexions neuronales qui relient ces différentes régions cérébrales. Essentiellement, danser demande plus d'intelligence que le fait d'enchaîner de simples exercices répétitifs. C'est socialement, intellectuellement et physiquement plus exigeant, ajoute Mme Blumen. Il suffit d'avoir éprouvé ce besoin irrésistible de bouger en écoutant sa chanson préférée pour savoir que combiner musique et mouvement met de bonne humeur et dissipe le stress. En réalité, il se passe beaucoup plus de choses dans le cerveau quand vous tâchez d'exécuter une chorégraphie, même la plus simple. La danse oblige à apprendre un motif, à penser à la fois de manière symétrique et asymétrique et à se souvenir de l'enchaînement. Résume David Leventhal, professeur fondateur et directeur du programme Dance for PD au Mark Morris Dance Center, où Sarah Robichaud a suivi sa formation. L'effet se prolonge au-delà du cours et se répercute positivement dans l'environnement du patient atteint de Parkinson. Il devient plus facile de se déplacer dans la cuisine ou de marcher jusqu'à l'arrêt d'autobus si on aborde ces tâches comme des chorégraphies. En 2018, à Magdebourg, en Allemagne, des chercheurs de l'université Otto von Guericke ont effectué des examens d'imagerie par résonance magnétique, IRM, sur des adultes âgés inscrits pendant 6 mois à un des deux programmes. Un groupe s'adonnait à la danse et l'autre faisait des exercices sur vélo et de la musculation. Bien que les deux groupes aient vu leurs conditions physiques s'améliorer, on a noté chez les danseurs une augmentation de la matière blanche et de la matière grise dans les régions du cerveau responsables des processus cognitifs, notamment de la mémoire de travail, de l'attention et de la pensée abstraite. Avec l'âge, on observe généralement un déclin de la matière blanche et de la matière grise, un phénomène qui se traduit par un ralentissement de la communication entre les différentes régions du cerveau et rend certaines tâches cognitives plus ardues, comme résoudre un problème ou accomplir plusieurs tâches à la fois. Les chercheurs émettent l'hypothèse selon laquelle les changements qui s'opèrent dans le cerveau des danseurs améliorent sa neuroplasticité, soit sa capacité de développer de nouvelles connexions et voies neuronales. Imaginez le cerveau comme une ville sillonnée de rues. La plasticité cérébrale peut se comparer à la capacité d'une ville à construire de nouvelles routes, à réparer les anciennes et à changer la direction de la circulation selon la fréquence d'utilisation et les besoins. À l'image d'une ville qui s'adapte et se transforme pour répondre aux besoins de sa population, notre cerveau se réorganise et s'ajuste en fonction de nos expériences et de nos apprentissages. Mieux, on a observé dans le groupe des danseurs une élévation dans le plasma sanguin du BDNF, une protéine qui joue un rôle déterminant dans le développement de la plasticité du cerveau. Dans une étude menée en 2022, Elena Blumen et d'autres chercheurs de l'Albert Einstein College of Medicine ont révélé que l'atrophie de l'hippocampe était moindre chez les adultes de plus de 65 ans, adeptes de la danse sociale, comparativement à ceux qui pratiquaient la marche sur tapis roulant. L'hippocampe est la région du cerveau essentielle au bon fonctionnement de la mémoire, laquelle est particulièrement atteinte chez les patients souffrant d'Alzheimer. Autrement dit, le centre de la mémoire diminue moins rapidement chez les danseurs, ce qui, croit-on, pourrait ralentir la progression de la maladie et améliorer globalement leur qualité de vie. Des études similaires ont démontré les bienfaits de la danse dans un grand nombre de maladies comme la sclérose en plaques et la maladie de Huntington, mais aussi l'autisme et la dépression. La thérapie par la danse aurait même des effets bénéfiques sur des sujets atteints de lésions cérébrales. Une étude finlandaise portant sur 11 patients souffrant d'un traumatisme crânien a montré qu'une rééducation basée sur la danse pouvait améliorer la mobilité, les fonctions cognitives et le bien-être. Danser et accepter son corps. Hormis les bienfaits sur les plans physiques et neurologiques, la danse permet à de nombreuses personnes atteintes de maladies de reconnaître les capacités de leur corps et d'en accepter les limites. En étant le catalyseur de la conscience de soi, de l'action, de la motivation et de l'acceptation, la danse permet de devenir l'ami de son corps, explique Erika Ornstall, thérapeute par la danse et le mouvement à Chicago, conseillère clinicienne et autrice. Plutôt que d'essayer de maîtriser ou de réparer le corps, la danse permet de développer une conscience corporelle et apprend à bouger en fonction de ses capacités, peu importe les différences physiques et cognitives, explique-t-elle. Après avoir perdu toute sensibilité dans ses membres, des pieds à la poitrine, Dania Baines a appris à 25 ans qu'elle souffrait de sclérose en plaques, SP. Aujourd'hui âgée de 44 ans, elle n'a toujours pas récupéré la sensibilité dans ses mains et souffre de rigidité musculaire et de problèmes d'équilibre qui rendent la marche et la station debout difficiles. Elle s'est inscrite récemment à un programme de danse en ligne parrainé par l'Université de Floride pour les sujets atteints de SP. En plus d'améliorer la coordination et l'amplitude de ses mouvements, ses cours lui ont permis de surmonter la peur d'être jugée par les autres élèves inscrits au programme et les gens en général pour sa façon de se mouvoir. Le simple fait de voir d'autres personnes bouger comme moi et de savoir que je ne suis pas tenue d'être professionnelle ou super technique dans ma façon de danser ou de lever la jambe de telle ou telle manière m'aide à m'accepter telle que je suis, dit Dania. Danser en communauté. En dansant avec d'autres, la personne atteinte de troubles neurologiques ou moteur ressent moins la différence de compétences. C'est aussi une bonne façon de lutter contre la solitude et l'isolement social dont souffrent les patients qui vivent avec une maladie chronique. Afin de favoriser le développement de nouveaux liens, ces programmes, d'abord destinés aux personnes atteintes de Parkinson ou de sclérose en plaques, sont désormais ouverts à tous. David Leventhal est frappé par le nombre d'élèves qui considèrent ses cours de danse comme leur planche de salut. Il a commencé à enseigner il y a 22 ans et, depuis, le modèle de Dance for PD a été adopté par 300 communautés dans 28 pays. Pour les patients qui les suivent, ces cours sont essentiels dans la gestion des symptômes du Parkinson. Ce n'est pas une activité supplémentaire à laquelle ils s'adonnent tout simplement pour le plaisir, précise-t-il, car pour de nombreux participants, la danse est devenue un élément vital pour leur qualité de vie. Les chercheurs commencent seulement à comprendre comment la danse peut être utilisée en tant qu'outil thérapeutique. Il faudrait des études plus approfondies pour confirmer les résultats de ces quelques essais. Des études complémentaires permettraient d'identifier les mouvements de danse les plus efficaces et la durée et la fréquence optimale des cours. En effet, on ne sait toujours pas à qui ils profiteraient le plus, et ce, en fonction de l'âge et de la progression de la maladie. Ceux qui ne sont pas attirés par la danse peuvent pratiquer d'autres activités physiques stimulantes pour le cerveau, comme le tai chi et le yoga, précise Notger Müller, professeur de sciences de la santé à l'Université de Potsdam et co-auteur de l'étude menée par l'Université Otto von Guericke. Et si l'idée de danser en public en effraie certains, il est possible de s'y adonner en suivant un cours en ligne. Sarah Robichaud a une mission: susciter un sentiment de communauté. C'est si vrai qu'elle se déplace dans tout l'Ontario avec son programme et il lui arrive d'installer sa caméra et de donner son cours chez l'un des danseurs inscrits. Où qu'elle soit, elle envoie un message d'espoir. Nous voulons que vous éprouviez de la joie, que vous soyez plus engagés dans votre communauté, que vous exploriez vos possibilités infinies jusqu'au terme de votre existence. C'était « Danser pour la santé de son cerveau », un texte de Claire Sibonnet, paru en mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest.
Les caisses libre-service, une technologie qui incite au vol, un texte de Gabriel Anquetil, paru le 4 avril 2024 dans Québec Science. La généralisation des caisses libre-service va de pair avec l'augmentation des vols. Réflexion de notre chroniqueuse sur cette nouvelle technologie. Ça, c'est un code que t'oublieras pas. Cette phrase, lancée par la gérante du supermarché où je venais d'obtenir un poste de caissière, mon premier emploi d'étudiante, s'est avérée prémonitoire. Car deux décennies plus tard, le code des bananes est encore gravé dans ma mémoire, 40-11. Ce souvenir a ressurgi lorsque mon épicerie locale a fait installer des caisses libre-service il y a quelques années. Les vieux réflexes me sont rapidement revenus, tout comme un étrange sentiment. N'est-il pas ironique de devoir accomplir gratuitement des gestes pour lesquels j'ai autrefois été payé? Pour certaines personnes, l'arrivée des caisses libre-service est apparue comme une occasion d'économiser à l'épicerie. Le truc de la banane est même devenu populaire auprès des adeptes du vol à l'étalage. Il suffit d'entrer le code d'un produit moins cher au poids, comme une banane, pour un item au prix plus élevé, comme des raisins. D'autres méthodes du genre se sont ainsi multipliées. Le vol semble d'ailleurs avoir connu une recrudescence coïncidant avec l'installation de ces caisses, selon une étude parue en 2017 dans le Security Journal. En fait, 57% de ceux ayant admis avoir pris des marchandises sans les payer l'ont fait parce qu'ils n'ont pas réussi à scanner un item et qu'ils l'ont donc simplement pris, notaient les deux chercheurs en criminologie derrière l'étude. « Si ça scanne pas, ça doit être gratuit » est une terrible blague que j'ai entendue trop souvent pendant ma carrière de caissière. La technologie semble lui avoir donné un fond de vérité. La plupart de ces vols sont motivés par la simplicité de l'action, voire une frustration envers les caisses. Certains non-scanneurs qui ne paient pas leurs produits ont l'impression d'avoir un droit. Si nous faisons tout le travail, pourquoi ne bénéficions-nous pas d'une réduction de prix? Ajoute le duo. Dans certains magasins Walmart et Canadian Tire, les multiples problèmes techniques ont eu raison de la technologie. Mais en général, les caisses libre-service ont le vent en poupe. Dans un billet de blog publié en 2023, la chaîne IGA notait qu'elles permettent de multiplier les revenus générés par le personnel puisque chaque employé gère simultanément plusieurs caisses. Alors, pour ou contre les caisses libre-service? La réponse nécessite de la nuance. Ces technologies ont des avantages avérés. Elles permettent en général de simplifier la procédure pour régler nos emplettes. Mais, comme toujours, il n'existe pas de solution universelle. Parfois, un humain demeure plus compétent qu'une machine. C'était Les caisses libre-service, une technologie qui incite au vol, un texte de Gabriel Anquetil, paru le 4 avril 2024 dans Québec Science.
Lecture obligatoire. Un texte de Normand Baillargeon, paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir. De plus en plus, et ce, dans de nombreux pays, on se préoccupe des terribles effets qu'a la surexposition aux écrans sur la santé, tant physique que mentale, des jeunes. Chez nous, le Parti québécois réclame un plan d'action numérique qui serait mis en œuvre dès la prochaine rentrée scolaire. La CAQ a rejeté à 70 voix contre 30 la motion le demandant. Dans cet important dossier, une lecture s'impose. Le dernier livre de Jonathan Haidt, un renommé psychologue social. Son ouvrage est une bombe de près de 400 pages bien serrées, regorgeant de données, d'études, mais aussi de précieux conseils pratiques. Je ne peux évidemment pas le résumer ici, et tiens à souligner que ce qu'il décrit provient essentiellement de recherches portant sur les États-Unis et que sa généralisation devra être prudente. Mais ce qu'on y apprend rend plus nécessaire encore la proposition péquiste. Pierrot s'en va sur Mars. Pour prendre la mesure de ce que Haidt avance, arrêtons-nous à cette métaphore sur laquelle il ouvre son livre. Revenant de l'école, votre enfant de 10 ans vous apprend qu'un milliardaire l'a choisi, avec quelques autres enfants du même âge, pour aller vivre en permanence sur Mars. Leur performance scolaire, l'étude de leur génome et le fait qu'à ce jeune âge l'adaptation sur Mars sera possible justifieraient ces choix. Vous ignoriez tout cela. Vous pensez bien entendu à tout ce que cette séparation implique sur le plan humain, mais aussi aux radiations sur Mars et à leurs terribles effets sur les humains, à la gravité, différente là-bas, qui provoquera des difformités, et vous concluez que c'est une idée complètement folle. Vous dites non. Mais on vous dit que votre enfant, qui vous supplie de le laisser partir, a déjà donné son accord en signant un formulaire et qu'il a coché la case prévue à cette fin en assurant qu'il avait obtenu l'accord de ses parents. Haidt, en faisant bien entendu les nuances qui s'imposent, pense que quelque chose de ce genre s'est passé pour la génération Z, les jeunes nés après 1995. Deux facteurs vont selon lui jouer. Le premier, ce sont ces nouvelles technologies et leurs effets sur les enfants, effets d'autant plus terribles qu'on a laissé les enfants dans le monde virtuel sans protection. Le deuxième facteur, qui se déploie en même temps, est cette nouvelle tendance, bien intentionnée mais désastreuse, à surprotéger les enfants dans le monde réel et à restreindre leur autonomie avec tous les dommages qui s'en suivent. Ces deux facteurs conduisent à une profonde et troublante redéfinition de l'enfance et de l'adolescence. Périls et remèdes. Ce qui s'est ensuivi, selon Haidt, ce sont notamment des problèmes de santé mentale se manifestant par de fortes hausses de l'anxiété, de la dépression, de l'automutilation, du suicide, de manière plus nette et plus marquée chez les filles. Haight décrit aussi, parmi ses effets, le manque de sommeil, la privation de relations sociales, la fragmentation de l'attention et la dépendance, cette fois encore avec des effets quelque peu différents chez les garçons. Il faut lire ces pages et ce sur quoi l'auteur s'appuie pour avancer ses conclusions. Mais ce livre est aussi précieux parce qu'il suggère des moyens de renverser ces terribles tendances et de ramener sur la Terre nos jeunes partis pour Mars. Il nous faut, dit Haight, un plan collectif concerté, comme ce que le PQ demande, un plan qui réunirait le gouvernement, les entreprises travaillant dans le domaine de ces technologies, les écoles et les parents. Des exemples? L'âge minimal pour pouvoir utiliser Internet devrait passer à 16 ans, contre 13 aujourd'hui, et on devrait mettre en place un vrai système de vérification. Pas de téléphone intelligent ni de médias sociaux avant le secondaire. S'agissant des écoles, Haight suggère notamment qu'on y interdise complètement le cellulaire. En arrivant à l'école, l'enfant devrait déposer son appareil dans un endroit prévu à cette fin pour toute la journée. Il suggère aussi, cette fois en référence à la surprotection des enfants évoquée plus haut, qu'il y ait à l'école une cour de récréation où les enfants joueraient pour vrai, avec peu de supervision des adultes. Épictète à la rescousse. Petit bonheur de philosophe en prime, Haight raconte comment, pendant qu'il écrivait ce livre, son respect pour certaines sagesses anciennes a grandi en découvrant combien celles-ci pouvaient être pertinentes pour faire face à ces maux et nous aider à rester maîtres de nos vies. Il en rappelle quelques-unes et, à mon grand bonheur, cite les stoïciens et, parmi eux, Épictète, qui a écrit ceci. « Si on confiait ton corps au premier venu, tu serais indigné. Et toi, quand tu confies ton âme au premier venu, pour qu'il la trouble et la bouleverse par ses injures, tu n'en as pas honte? » Manuel 28. Et merde aux réseaux sociaux, donc. Merci encore, Épictète. C'était « Lecture obligatoire ». Un texte de Normand Baillargeon paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir.